vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, et nous recevons Damien Ziegler. Damien Ziegler, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes critique de cinéma, essayiste, auteur de nombreux essais consacrés à des films et des cinéastes dans l'excellente maison d'édition Leitmotiv que je recommande bien évidemment à nos auditeurs. Vous avez parlé de Woody Allen, de La Nuit du Chasseur, vous avez fait un dictionnaire sur Terrence Malick, un essai sur le western au XXIe siècle et donc votre dernier, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, L'Apocalypse n'est pas pour demain. Mais avant de parler de tout cela dans le détail, nous avons une petite tradition dans l'émission, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Damien Ziegler, s'il ne fallait garder qu'un seul film d'Hitchcock, et vous n'avez pas le droit de dire Les Oiseaux.
Ah bah, je vais dire Mais qui a tué Harry, puisque j'en parle d'ailleurs beaucoup dans le livre. Je fais même un long parallèle entre les deux films. Mais qui a tué Harry, préparant presque Les Oiseaux. Alors, c'est pas une esquisse, c'est déjà un film complètement achevé, un monde en soi. Moi, personnellement, je trouve même plus réussi, mais par contre, c'est plus risqué d'en parler, puisque personne ne le connaît, je pense. C'est pas que je méprise et que j'ai des doutes sur la culture générale des cinéphiles, c'est que je pense que vraiment, le passage du temps n'a pas fait du bien à ce film-là, qui est un peu une excentricité du réalisateur britannique. Mais c'est un condensé, un précipité de tous ces thèmes et dans une esthétique qui est, donc on est dans le milieu des années 1950, dans une esthétique qui est à son sommet, qui est complètement achevée. Mais qui a tué Harry, c'est un film même beaucoup plus beau que n'importe quel autre film d'Alfred Hitchcock. Le monde n'a jamais été aussi beau dans ce film-là, mais il n'a jamais été également en même temps aussi corrompu. Et c'est pour ça que je disais qu'il préparait le propos des oiseaux. Donc on a un peu l'impression que Les Oiseaux, c'est presque la sanction, l'épilogue de ce qui était déjà dit dans Mais qui a tué Harry. Il montre une société repliée sur elle-même, en proie à la décadence, un peu comme la ville de Bodega Bay, ou le village, parce que ce n'est pas vraiment une ville. On a l'impression que c'est un petit port, et puis trois maisons qui ont été construites autour. Voilà, donc c'est ça. Moi, j'ai toujours adoré ce film, et je ne demeure pas. Voilà. Il y a beaucoup de films Hitchcock qui sont beaucoup plus connus. Je ne vais même pas les citer, parce que tout le monde les connaît. Mais je pense que voilà, il y a alors il y a le mot de Stendhal qui est un peu connu, hein, les Happy Few. Ce film-là, c'est quand même ce film que je recommanderais encore plus que les autres.
Vous êtes plutôt Gary Grant ou James Stewart?
James Stewart, deux Hitchcockiens évidemment, mais Stewart est plus Hitchcockien encore, je dirais, puisque enfin, ça dépend, parce que on pourrait trouver que Grant dans La Mort aux Trousses, c'est l'apothéose de ce qu'est l'homme, le mal dominant, ou ce qu'aurait peut-être espéré être Hitchcock lui-même, à son prime pour ainsi dire. Mais le personnage hitchcockien, c'est d'abord un névrosé. Quelqu'un qui hésite un peu entre, qui est déséquilibré, qui hésite entre le réel et puis la folie. Et Stewart, quand même, dans Sueur froide, Fenêtre sur cour, c'est un meilleur acteur, hein, tout simplement. Je dirais que c'est un meilleur acteur, c'est un des plus grands acteurs de l'histoire. Donc je dirais quand même Stewart.
Le grand cinéaste qui n'aurait jamais dû faire ce film, donc à savoir le navet d'un grand cinéaste.
Ah, un mauvais film d'un grand cinéaste. Ça, c'est un peu dur. Alors, spontanément, j'aurais tendance à chercher, la mascotte du régiment de Ford. Non, je sais pas. J'avoue que y aurait trop de choses à dire là-dessus, ou pas assez. Non, je me donne ma langue au chat.
Le cinéaste actuel le plus surestimé.
Pareil, je suis pas assez, je fréquente pas assez les salles pour tout voir et pour tout connaître de ce qu'il dit sur les réalisateurs les plus acclamés. Je pourrais même pas vous dire qui a gagné la dernière Palme d'Or. Donc non, je vais passer.
Christian Mangiou. Quel est le soi-disant chef-d'œuvre
<C'est vrai. Ouais. rire>
Le soi-disant chef-d'œuvre qui vous laisse totalement froid.
Ouais, alors ça, c'est un peu plus facile. À chaque fois que je repense à Jean-Luc Godard, qui nous a quittés il y a quelques temps déjà, je me dis que lui et toute la nouvelle vague qui a suivi derrière ne devraient pas occuper la place qu'ils occupent dans les histoires du cinéma.
Un film qui
Et
ne...
à bout de souffle.
À bout de
À bout
souffle.
de souffle, je citerai à bout de souffle, voilà, tout simplement.
Un film qui ne cesse de vous surprendre à chaque nouveau visionnage.
Ça, c'est une question difficile. Bon, je vais quand même me lancer. Bon, je vais citer tout simplement le film que j'aime le plus voir en ce moment, le plus régulièrement. Il n'y en a plus tellement. L'aventure de Madame Myrna Mankiewicz, dont je parle aussi d'ailleurs dans. Il me sert d'épilogue d'ailleurs au livre sur les oiseaux, pour les raisons que mes lecteurs pourront apprécier. Ça n'a jamais été mon film préféré pendant des décennies, puisque je suis d'un certain âge, mais au fil des visionnages, épars, sans raison précise, c'est une espèce de gerbe de beauté qui n'arrête pas de sortir de ce film-là, et qui est peut-être devenu mon nouveau film préféré.
Et
Voilà.
enfin, dernière question, l'actrice française la plus iscoxienne.
Oui, je penserai à Catherine Deneuve parce qu'elle est blonde. Tout simplement.
Merci Damien Ziegler. Passons
Avec
maintenant à
plaisir.
votre dernier essai, donc Les Oiseaux, donc un film de 1963. Donc en effet, peut-être l'un des plus célèbres d'Hitchcock. Mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu ou qui l'ont oublié, puisque peut-être pouvez nous rappeler de quoi ça parle.
Alors, ça, c'est un film assez long, donc du coup, le propos, il a du mal, enfin, entre guillemets, il a du mal à être installé, puisque c'est une espèce de prologue un peu hésitant qui montre la rencontre entre ben, les deux protagonistes du film, que sont mais, donc, forcément la blonde insondable, donc là qui est jouée par Tippi Hedren pour incarner Mélanie Daniels. Et puis un beau brun, pas trop ténébreux, il n'arrive pas forcément à la cheville de Cary Grant. Ils se rencontrent un peu par hasard, ils se défient, ils commencent à échanger des propos dans une animalerie, c'est un peu particulier. Et puis ils vont finir par se rencontrer à nouveau dans le village qu'habite Mitch Brenner, donc, qui est joué par Rod Taylor. Et c'est dans cette petite cité balnéaire qui s'appelle Bodega Bay, donc qui est un petit bled qui se trouve sur la côte californienne, que va débuter une série d'événements très très bizarroïdes, puisqu'il y a des attaques spontanées d'oiseaux de tout type, de toutes les espèces, qui débutent. D'abord une attaque, puis deux attaques, et puis on essaie de trouver des raisons d'établir des schémas, des cycles, et c'est un peu compliqué parce que les attaques se multiplient, mais elles se font un peu sans raison sur tout type de personnages. Il y a la scène la plus connue du film, peut-être, je dirais, qui montre une attaque de corbeaux sur des écoliers qui sortent de leur établissement scolaire. C'est une scène emblématique du film, puisque on ne comprend pas pourquoi. On a l'impression que ce sont les sentinelles qui se postent une à une de manière méthodique, qui attendent un instant pour frapper, ce qui n'a pas vraiment de sens puisqu'on parle d'animaux. D'animaux, donc a priori dénués de raison, et pourtant qui agissent voilà, comme des militaires qui sont en train de mettre en œuvre une stratégie guerrière. Qui se rangent en ordre de combat et puis qui fondent sur l'ennemi dont on ne comprend pas pourquoi ce sont des ennemis, puisqu'il s'agit de petits gamins. Hein. Et pourtant, il y a une scène assez longue qui montre cette attaque voilà, sur les enfants. Et ça continue après, voilà, ça s'aggrave pour ainsi dire. On a l'impression que voilà, tout le monde va mourir dans cette ville, jusqu'à effectivement une espèce d'apothéose. Très mystérieuse, puisqu'il faut quand même dire quelque chose de manière très affirmative, c'est que ce film ne donnera jamais de raison.
Oui, ça se termine sur le mot fin sans résolution. C'est voilà.
Oui, y a des points de suspension concrètement qui sont une fin ouverte, puisqu'on voit les deux héros, enfin toute la famille de Mitch Brenner avec Mélanie Daniels quitter le village pour rentrer à San Francisco. Mais voilà, ça se termine comme ça, alors qu'ils sont observés par les oiseaux qui, pour ainsi dire, à ce moment-là, restent immobiles. On comprend pas pourquoi. Donc, je parle beaucoup de ça dans le livre, sur cette raison d'expliquer, sur la raison possible. Est-ce qu'il y a une raison à ne pas expliquer? C'est une vraie question, puisqu'on aime bien tout comprendre, tout savoir. Souvent, quand on parle d'un film, on commence par dire la fin, pour bien montrer qu'on a compris ce qui s'est passé à la fin, parce que tout était écrit dès le début. Là, en l'occurrence, non, on n'y comprend rien. C'est un film qui gardera son mystère jusqu'à la fin.
Marc Obregon.
Oui, pour resituer un petit peu le film dans l'œuvre d'Hitchcock, vous racontez très bien que le film suit juste Psychose, qui a contribué à en faire un cinéaste culte. Et donc, quand il arrive sur le tournage des oiseaux, il a quasiment les pleins pouvoirs. Et d'ailleurs, il se débarrasse de beaucoup de collaborateurs anciens pour imposer sa marque sur tous les aspects du film, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire l'aspect sonore, c'est-à-dire le visuel. Et donc, c'est un film à ce titre qui est quasiment avant-gardiste et expérimental. Vous pouvez revenir un petit peu sur ce côté démiurgique d'Hitchcock sur ce tournage.
Oui, Hitchcock, effectivement, Psychose avait marché très très fort. Il était connu depuis très longtemps. Après, c'est quand même quelqu'un qui a couru toute sa carrière après une certaine reconnaissance officielle, académique, entre guillemets, qu'il n'a d'ailleurs jamais obtenue, puisque il a jamais obtenu l'Oscar qu'il convoitait manifestement beaucoup. Et il a décidé finalement de trouver une nouvelle façon d'effrayer ses spectateurs, qu'il avait déjà été beaucoup dans Psychose, puisque Psychose, c'est quand même, pour ainsi dire, un vrai film d'horreur, un film d'épouvante, bon, comme on pouvait en faire dans les années 1960. Mais on ne voyait pas trop comment il allait pouvoir faire mieux. Donc, du coup, là, il a trouvé une histoire assez insignifiante, enfin insignifiante. À la base, on parle d'une nouvelle, donc de quelques
D'acheter du
pages. Hein.
mariage.
C'est vraiment une histoire très très modeste qu'il a amplifiée vers un scénario sans aucun rapport de proportion avec le matériau d'origine, puisque le film est assez long. Et il est expérimental, déjà parce que il raconte pas d'histoire très clairement. On voit un peu les gens agir sans raison. Et le propos est assez moderne, puisque effectivement, le fait de raconter un film sans histoire très claire, c'est un peu déstabilisant. On attend que les choses se mettent en place, et elles ont du mal à le faire. Après, l'expérimentation, j'ai pas envie de dire qu'Hitchcock, pour moi, ça reste un cinéaste extrêmement classique. Il a une vision de la forme. La forme est pleine, elle est complète. Le film, bon, ça c'est assez connu, hein, il est pensé, conçu dans son intégralité avant que la première prise de vue ne soit effectuée. Ça, c'est quelque chose de classique, puisqu'il n'y a pas d'improvisation, il n'y a rien de tout ça. Tout est écrit, tout est pensé. Le modèle esthétique, il est assez clairement identifié. Il est moderne dans ce sens qu'il s'inscrit dans une thématique qui est très caractéristique du XXe siècle, c'est l'incommunicabilité entre les êtres, puisqu'on a des gens qui n'arrivent pas à se comprendre parce qu'ils ne savent pas comment se parler et qui n'osent pas se parler. Donc ça, c'est une... Mais c'est pas quelque chose qui caractérise Hitchcock. Ça, il y a plein d'autres réalisateurs qui s'emparent de ce même thème. Après, la petite touche expérimentale du film, ce serait plutôt du côté de l'absence de musique originale qu'il faudrait la chercher, puisque il y avait d'habitude des grandes partitions classiques signées par Bernard Herrmann, hein, qui était son compositeur attitré. Là, Bernard Herrmann, il y a collaboré, mais juste comme consultant. Et des effets de sonore synthétiques. Des espèces de bruit d'ordinateur très très laid, hein. C'est pas beau, mais c'est volontaire, évidemment, c'est exprès. Ça, c'est, je dirais, l'aspect le plus expérimental du film, mais
Alors,
pas le plus essentiel pour autant.
vous faites également un parallèle avec les dents de la mer dans votre ouvrage. En quoi les oiseaux et les dents de la mer partagent-ils la même philosophie, alors peut-être du mystère, ou la même philosophie aussi, l'horreur peut-être? Vous dites no notamment que l'horreur est montrée au grand jour plutôt que suggérée. Et au CR, en effet, vous le rappelez, cette attaque des corbeaux sur les écoliers, quand on voit les oiseaux jeunes, ça laisse quelques traces.
Oui, c'est une qualité, ça, pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est indispensable, mais il faut arrêter de penser que pour faire du bon cinéma, il faut, faut tout suggérer, jouer sur l'invisible, le non-vu. Hitchcock, il adore montrer. Il a d'ailleurs investi, enfin, il a dû monopoliser un très gros budget d'effets spéciaux. Alors, malheureusement, avec le passage du temps, le budget des années 60, ça ne suffit pas à cacher, à masquer le fait que ce sont des oiseaux de pacotille, hein, pour ainsi dire. Il y a des incrustations qui sont certainement pour l'époque très bien faites, mais aujourd'hui, on va les trouver très, 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 très laides, hein, pour dire les choses très clairement. Peu importe. Mais le rapport avec Spielberg, oui, c'est que Spielberg, c'est aussi quelqu'un qui adore tout montrer. Alors, l'intérêt des Dents de la Mer, c'est réellement quand le requin attaque. C'est pas... évidemment, il y a une montée en tension, là pour le coup, qui est très très bien portée par la musique de John Williams. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement quand il y a le requin qui bouffe le bateau, hein, pour parler de manière très 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 précise. Et ça, c'est pas mauvais parce que en fait, l'intérêt de ces deux réalisateurs-là, c'est qu'ils sont capables de montrer tout sans rien enlever du mystère. Ce n'est pas parce qu'on montre tout qu'on déshabille, pour ainsi dire, le décor. Le mystère, il est au sein même, il reste incrusté au sein même de l'image, et de tout ce qui est montré. Et ça, c'est un beau désaveu à tous les gens qui disent, enfin, qui pensent qu'il faut laisser l'imaginaire s'installer. Alors, on peut aussi le faire, hein, ça ne veut pas dire que c'est la méthode à suivre impérativement. L'art de la suggestion, il y a un long chapitre que je consacre à ça, parce que je dédie un long chapitre, même le plus important, je pense, un parallèle entre Jacques Tourneur et Alfred Hitchcock. Alors, c'est assez inattendu, mais en lisant le chapitre, je pense que le lecteur pourrait se laisser charmer et convaincre par ce parallèle, puisque Tourneur, lui, il a fait des films d'épouvante aussi avant Hitchcock, mais en ne montrant, pour ainsi dire, rien. Donc Hitchcock, lui, montre tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ne montrant rien d'un côté et en montrant tout de l'autre, on peut vouloir dire la même chose. C'est-à-dire porter un regard sur le monde concordant, entre chaos et harmonie, puisque les oiseaux, pour moi, c'est ça, c'est la rencontre du chaos et la façon dont on peut surmonter ce chaos pour retrouver une certaine forme de sérénité. Voilà, donc ça c'est... et puis le film, il y arrive très bien, donc c'est en ce sens qu'on peut parler de réussite artistique majeure. C'est-à-dire qu'il est très ambitieux, mais qu'il arrive à fournir des images qui sont à la hauteur de ses ambitions-là. Donc voilà, c'est Spielberg, pour revenir à votre question, Spielberg et Hitchcock, ils montrent tous les deux, sans que le mystère soit éventé pour autant, tant que l'attrait du spectateur soit déçu, soit trompé. Et ils partagent effectivement, Spielberg et Hitchcock, une vision du monde assez similaire. C'est-à-dire que la brutalité chaotique, donc là, évidemment, l'incarnation du requin, c'est évident. C'est pire encore que les oiseaux, puisque là, on a une machine. Spielberg parlait toujours de machine à manger, qui est vraiment très très efficace, et on peut penser que lorsque l'on se trouve face à une telle créature, on peut pas, enfin, il n'y a aucune issue.
Surtout quand on voit la taille.
Le chaos extrême, mais en même temps, excusez-moi.
Non, je dis surtout quand on voit la taille, en effet, du requin dans les Dents de la Mer, qui est assez massif. Requin qui arrive plus tard, oui, qu'il n'était prévu, parce que comme le rappelle cet excellent livre, Le Nouvel Hollywood, Spielberg avait créé un requin en machinerie, et très fier l'avait montré à ses amis de l'époque, George Lucas, Coppola, et de mémoire quelques autres, et avait montré comment la mâchoire s'actionnait via un mécanisme, et Lucas, curieux, avait mis la tête à l'intérieur pour voir le mécanisme, et Coppola avait appuyé sur la mâchoire du requin, qui s'était refermée sur George Lucas, et le mécanisme s'était cassé, et donc pour réouvrir la mâchoire, ils avaient dû péter le requin qui s'appelait Bruce, et c'est pourquoi le requin arrive très tard dans le film, parce que la machinerie s'était cassée. Marc Obregon a une question pour vous.
Oui, votre thèse repose en partie sur le fait que l'apocalypse est constamment finalement nié dans ce film. C'est un faux film d'apocalypse. Et moi, en voyant, je me suis même dit que c'était finalement un film sur une genèse, finalement. Il y a quelque chose de cosmogonique dans ce film. Est-ce que vous savez d'accord?
Cosmogonique. Alors, expliquez-nous là.
La création du monde.
D'accord. Voilà.
Quel est votre avis là-dessus?
C'est vrai que ça me parle, puisque la mythologie, je m'en sers beaucoup pour enquêter un petit peu sur les images du film, notamment la figure grecque d'Aphrodite, donc la Vénus romaine, qui aurait pu être Mélanie, puisque c'est un symbole de fertilité qui vient apporter la vie, puisqu'elle a acheté en fait un couple d'oiseaux, des inséparables, donc des oiseaux qui sont constamment amoureux. Et elle veut s'en servir pour faire un cadeau à une fillette, donc la sœur dans le film de Mitch Brenner. Et on a l'impression, voilà, quand elle arrive sur ce bateau pour faire ce cadeau, alors l'histoire est assez singulière, mais on peut le voir comme ça, qu'il y a effectivement un symbole de fertilité évident, l'eau, les inséparables. Mais tout ça, ça s'enraye. Rien ne fonctionne. Le couple a énormément de mal à se former à l'écran, alors qu'au final, on comprend que c'est le thème principal du film. Les oiseaux, c'est pas un film sur des animaux qui essaient de tuer des gens, c'est plutôt un film sur une relation amoureuse qui a énormément de mal à se mettre en action, parce que les deux adultes du film, c'est un peu des deux grands bêtas qui ne savent pas trop comment se comporter lorsqu'ils sont mis en présence vis-à-vis de l'autre. Et c'est presque pour ça que le film est aussi long, parce que ça montre à quel point ils ont du mal à se parler.
Oui, il y a côté presque comédie du mariage, un petit peu.
Oui, non, mais c'est ça. Ils sont ridicules et ils ont les grands remèdes. Ils ont besoin effectivement d'être obligés avec ces attaques qui les conduisent évidemment à coopérer. Ils s'enferment dans la maison. Mélanie est attaquée de plus en plus brutalement. Son homme va essayer de tout faire pour la protéger. Mais il faut ça finalement pour que les gens commencent à comprendre qu'ils ont le droit de se parler. Et moi, effectivement, c'est la clé, je dirais presque, d'interprétation du film. Non, non, effectivement, c'est pas un film d'apocalypse. C'est un film qui montre à la fin le couple partir ensemble sur la route de leur belle voiture. Et on peut espérer, voilà, de très belles choses pour eux dans un futur proche. Voilà, c'est ça. Il a fallu ça pour qu'on puisse penser que loin d'une fin du monde, eh bien non, c'est juste une histoire d'amour qui va enfin pouvoir naître. D'ailleurs, ça, c'est un thème qui a été, dont s'est emparé un autre admirateur d'Hitchcock, qui, alors beaucoup moins bien à mon humble avis, c'est M. Shyamalan, hein, qui a fait des films qui reposent beaucoup sur ce thème de gens qui ont peur de se parler et qui n'arrivent pas, pour ainsi dire, à s'aimer. Voilà, donc c'est un thème qui est toujours d'actualité, 60 ans après, dans le cinéma le plus contemporain. Mais pour moi, c'est ce qui le rend intéressant, parce que faire un film sur la fin du monde, il y en a beaucoup. On n'avait pas besoin d'Hitchcock pour en faire un autre, pour ainsi dire.
Rémi Carlu a une question pour vous.
Oui, à première vue, on a l'impression que Les Oiseaux est quand même un film assez différent des autres grands films hitchcockiens très connus. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire un film avec un matériau finalement assez faible, où il y a pas de grands rebondissements, où à la fin on comprend pas grand-chose, alors qu'à l'inverse, les films d'Hitchcock sont toujours très rythmés, il y a beaucoup de rebondissements, et à la fin il y a toujours une grande scène où on comprend tout, où on se met tout à toute l'histoire, pardon, est expliquée. Alors, donc pour vous, quelle place ce film occupe-t-il dans la filmographie d'Hitchcock? Est-ce que c'est donc une singularité, un film très à part du reste, ou est-ce qu'au contraire, il s'inscrit davantage dans l'ensemble que ce qu'on pourrait voir à première vue?
Je pense qu'il explicite, il couronne le propos d'Hitchcock en ce sens que il n'est pas à part, en ce sens qu'il est assez peu un point d'aboutissement. Il y a toute la philosophie d'Hitchcock qu'il porte sur le monde dans ce film, c'est-à-dire un regard très cinglant, très cynique sur l'humanité. Hitchcock n'a jamais été tendre. À mon avis, je pense même que c'est quelque chose d'officiel, il était misanthrope. Il portait sur l'humanité un regard très très sévère. Mais en même temps, il y a aussi véritablement un côté fleur bleue, parce que c'est une histoire d'amour et ça, c'est partagé par tous ses films. Alors évidemment, le modèle ultra rythmé, palpitant, qu'est La mort aux trousses, c'est pas dans Les oiseaux, qui est un film effectivement beaucoup plus lent et décousu, mais c'est le même enjeu. À la fin, il y a un couple qui se forme et qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à le faire parce qu'il y a eu une quantité, une avalanche presque infinie de péripéties, de phénomènes adverses qui se sont imbriqués dans cet écheveau. Mais le côté optimiste, c'est qu'en dépit de cette espèce de fatum, ça marche quand même. Il y a un côté effectivement, alors conte de fées, en ce sens que le conte. Pour autant que les contes de fées se finissaient parfois bien, ce qui est loin d'être toujours le cas, mais chez Hitchcock, quand même, ça se finit souvent bien. Alors, ça se finit parfois très mal, là, je pense quand même à Sueur Froide, qui est parfois présenté comme le grand chef-d'œuvre d'Hitchcock. C'est un film terrible. Le thème était le même déjà dans Sueur Froide, des machineries. Alors là, pour le coup, c'est pas la nature, c'est vraiment les hommes qui passent leur temps à échafauder des plans pour se nuire entre eux. Et là, ça fonctionne malheureusement. Les plans diaboliques, machiavéliques fonctionnent. Et le couple ne naît pas alors qu'il y avait vraiment tout pour qu'il y ait une histoire d'amour, hein, pour ainsi dire, entre Kim Novak et James Stewart, enfin, tout du moins les personnages qu'ils incarnent dans le film. Mais c'est plutôt Sueur Froide qui n'est pas représentatif d'Hitchcock. Et les oiseaux plus représentatifs, puisque chez Hitchcock, ça se finit quand même souvent bien. Oui, effectivement. Évidemment, pas non plus son grand film d'horreur qu'est Psychose, qui est un film assez terrible. Mais L'homme qui en savait trop, La maison du docteur Edwards, Les Enchaînés, tout ça se finit quand même très 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 bien. Ou bien un film ultra romantique, hein, qu'on ne connaît pas forcément non plus très bien, mais qui est quand même très intéressant de ce point de vue-là, qui est Les Amants du Capricorne, où on a l'impression, là encore une fois, que c'est mineur, que ce n'est pas du Hitchcock, qu'il n'y a pas de suspense, c'est aussi un peu décousu, on ne sait pas trop où ça va, mais c'est la même idée, c'est des gens qui trouvent un moyen pour parvenir à se parler de nouveau. Voilà. Et du coup, pour répondre voilà, d'un trait à votre question, non, les oiseaux, c'est beaucoup plus caractéristique du propos général d'Hitchcock que Un monde à part.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, que je rappelle chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Et nous recevons donc Damien Ziegler, critique de cinéma, essayiste, qui a publié de nombreux ouvrages sur les films, les cinéastes, et aux excellentes éditions Leitmotiv. Et donc il publie aujourd'hui Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. L'apocalypse n'est pas pour demain. Le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite après.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, il est 19h02 et vous savez qu'à 19h, donc 2 minutes de retard, mais c'est pas grave, c'est la chronique de Marc Obregon. Et aujourd'hui, Marc Obregon, vous allez nous parler de The Backroom, qui sort aujourd'hui, énorme carton aux États-Unis et qu'on nous vend déjà comme le renouveau du cinéma horrifique.
Oui, alors tout le monde parle aujourd'hui du renouveau du cinéma d'horreur, mais de quoi parle-t-on au juste? D'un côté, il y a le fameux studio A24 qui aurait révolutionné le genre, portant au nu une soi-disant elevated horror, comme si les films d'horreur avaient attendu ce studio pour être élevés. Demandez donc à John Carpenter ou David Cronenberg ce qu'ils en pensent. Donc une vaste opération de marketing destinée à redorer le blason d'un genre qui s'est essoufflé peu à peu dans les franchises interchangeables, mais qui a tout de même eu le mérite de dénicher quelques vrais talents comme Ari Aster. Alors de l'autre côté, il y a toute une sorte de nouvelle vague de créateurs et d'artistes, inspiré par ce qu'on appelle vulgairement l'horreur Internet, et qui est un genre à part entière. On parle là de toute une culture développée sur le web, depuis les balbutiements de YouTube dans les années 2000 et l'apparition de légendes urbaines conçues sur des forums tels que Reddit ou 4chan, souvent participatives et qu'on appelle des creepypastas. Alors fascinantes parce qu'elles intègrent des éléments de folklore à des phobies collectives, tout en les agrégeant aux nouvelles technologies. Parmi les plus connus des creepypastas, on trouve Candle Cove, un dessin animé qui rend fou et que seuls les enfants peuvent voir, ou encore Slenderman, ce croque-mitaine longiligne qui prend vie sur la vieille photo de famille. Autant d'histoires dont la particularité est d'être virale, bien sûr, mais aussi disséminée sur tout type de support et toujours relative à quelque chose de caché, à la fois quotidien et cryptique, avec une esthétique poussée de la basse définition, du pixel qui tâche, de la vidéo dénichée sur un terrain vague ou de la carte mémoire d'un appareil mort, d'un appareil photo d'un mort.
Et alors, ces fameuses backrooms-là et le creepypasta, dont on découvre également ce nouveau terme que je ne connaissais pas. Donc, c'est quoi les backrooms? C'est un creepypasta ultra sophistiqué?
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est parti, comme souvent, d'une simple photo postée sur Reddit en 2019. Alors, la photo d'une sorte d'open space miteux, couvert d'une moquette jaunâtre, et de laquelle se dégage, il est vrai, un certain malaise. Cette fameuse étrangeté inquiétante qui secoue l'inconscient sur ses bases et donne au quotidien les reliefs de la folie et de l'inconfort. Alors, dans le silage de cette photo, c'est constitué toute une mythologie, une sorte d'espace liminaire, des backrooms donc, un monde parallèle infini, sorte de purgatoire capitaliste auquel on accéderait par des glitches, c'est-à-dire, dans le langage vidéoludique, par des failles dans le code du réel. Donc c'est une mythologie puissante qui emprunte autant aux névroses postmodernes qu'à un bon vieux sac des enfers à la Dante et où finiraient tous les salariés des accès. Alors le studio 24, soucieux de sa crédibilité, a donc confié le long métrage à Ken Persons, youtubeur de 20 ans, qui s'est fait connaître avec une série de vidéos de backroom réalisées chez lui, avec un talent indéniable. Donc, le problème c'est que le film, avec son casting qui fleure bon le cinéma d'auteur, sa volonté de ne pas céder aux sirènes de jumpscare ou du gore, pour préférer un malaise soigneusement distillé et un rythme plutôt contemplatif, avait tout pour plaire sur le papier.
Alors, au final, cette révolution du cinéma d'horreur a-t-elle eu lieu?
Eh bien, soyons francs, non. Le problème, c'est que, comme toutes les productions à 24, le film souffre de cette trop grande sophistication qui semble nous crier à chaque plan « Regardez, nous sommes les rois du film d'horreur intelligent. Les décors, les cadrages, le jeu des acteurs, tout est polissé et si parfait que le film oublie totalement de faire peur. » Un comble pour une légende urbaine, justement basée sur le malaise et sur ces espaces liminaires qui nous renvoient volontiers à notre propre chaos intérieur. Alors ce n'est pas nouveau, depuis Georges Perec et Jean Baudrillard, on sait que l'on contient nous-mêmes des espaces immenses et liminaires. Alors, pour autant, on se laisse porter par le film, mais on reste étonnamment distant, comme on serait devant de belles images sur papier glacé. Au final, les fameuses backrooms ressemblent plus à une gigantesque installation au palais de Tokyo qu'à un labyrinthe mental de la folie. Alors pour ce dernier, on va plutôt revoir un bon vieux Twin Peaks, voire Hellraiser, bien plus viscéral que cette copie proprette livrée par un premier de la classe.
Merci Marco Bregon, vous l'aurez compris, vous pouvez passer votre chemin. Et puis j'ai appris plein de nouveaux mots, donc creepy pasta, jumpscare, Reddit, salaryman. Bref, la prochaine fois, je vais quand même prendre un petit dictionnaire avec moi, mon cher Marc.
Quelques pièces pour mettre la tirelire.
Oui, le cochon, là, est rempli d'argent. Alors, revenons avec notre invité, Damien Ziller, qui publie donc chez nos amis de Leitmotiv, L'Apocalypse n'est pas pour demain, parce qu'il parle des oiseaux, le film d'Hitchcock. Justement, on parle d'apocalypse. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas d'explication, en tout cas évidente, et que ça se termine sur trois petits points de suspension, que c'est l'apocalypse?
Oui, effectivement, c'est un vide qui peut remplir d'angoisse et d'effroi, mais non, le propos il est tout au contraire. Hein. C'est justement parce qu'il y a de l'inexpliqué, du vide, qu'il faut se sentir stimulé et d'être capable d'apposer sa patte sur son empreinte, sur ce vide, pour y laisser sa trace, un peu comme ces plages où il y a les oiseaux qui attaquent. Après l'attaque, après la dévastation, il faut reconstruire. Et c'est tout le propos du film, à mon sens, et de ce que je tente d'expliquer dans le livre. C'est que la destruction est déjà une forme de création. On fait table rase du passé pour mieux reconstruire et pour mieux se porter vers l'avant évolué, pour ainsi dire, puisque le vrai danger qui est dépeint dans le film, c'est plutôt l'immobilisme, le passéisme, la terreur, effectivement, de s'ouvrir aux autres, parfois même à soi-même, en se retranchant, se bouclérisant. Il y a plein de personnages dans le film dont on comprend qu'ils ont tellement peur, qu'ils se sont enterrés, emmurés vivants, dans leur maison, c'est le cas. Ceux qui connaissent un peu l'intrigue, ils penseront au personnage de l'institutrice, ou bien le personnage de la mère, Lydia Brenner, jouée par Jessica Tandy. Voilà, c'est ces gens-là qui incarnent dans le film ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire justement se recroqueviller, installer le vide autour de soi pour être sûr de ne pas être dérangé. Alors que non, au contraire, peut-être que justement un petit brin de dérangement, de chaos domestique, ça permet de faire repartir la machine et de se reconstruire, alors même qu'effectivement il y a des épreuves terribles, effectivement, qui se dressent devant tout un chacun au fil des méandres de nos existences respectives.
Alors vous l'avez dit au début de notre entretien, Alfred Hitchcock n'a jamais été récompensé. Hollywood, il n'a pas eu d'Oscar. Oui. Est-ce que vous avez une explication à cette chose étrange et presque paradoxale d'ailleurs ?
Alors c'est très paradoxal puisque Hollywood, c'est quand même une famille qui aime bien récompenser le divertissement, l'artisanat. C'est pas des gens qui sont là pour récompenser le génie méconnu, les gens, c'est pas forcément des révélateurs. Hitchcock, c'était quelqu'un de très bien installé, qui a eu beaucoup de succès commercial toute sa carrière durant. Le fait que, alors peut-être qu'il y a des intrigues cachées, des vengeances comme ça, mais non, moi j'ai absolument aucune explication au fait qu'il ait pas eu l'Oscar. C'est après, il y a plein de gens très connus dont on se demandait pourquoi ils n'ont pas eu l'Oscar plus vite. Leonardo DiCaprio, c'est un acteur très talentueux qui a eu beaucoup de temps à attendre, attendu beaucoup de temps pour obtenir son premier Oscar. Lui, il l'a eu. Ouais. Non, Hitchcock, le pauvre, il ne l'a jamais eu. Ça aurait été une déception qu'il aura gardé jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est quelque chose qui est documenté et référencé. Mmh. C'est bien dommage.
Normalement, on donne des Oscars d'honneur. Je me rappelle que Ennio Morricone n'avait jamais eu d'Oscar pour sa musique. On lui avait donné un Oscar d'honneur avant qu'il ne meure. Ce qui est assez étrange également. Alors, je vous propose que nous parlons maintenant de votre autre essai, le western au XXIe siècle, l'apogée d'un genre. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre, le western au XXIe siècle, l'apogée. Alors, on a le sentiment que le XXIe siècle, on est vraiment la fin du western et que, alors c'est vrai que le cow-boy revient épisodiquement de temps en temps et c'est un genre qui est apprécié. En tout cas, en France, généralement, ça marche quand les cow-boys débarquent au cinéma. Mais en quoi c'est le XXIe siècle et l'apogée de ce genre qui, je rappelle, est né le cinéma et en même temps que la conquête de l'Ouest se terminait. C'est-à-dire que John Ford, quand il fait son adaptation d'Hockey Choral, il a rencontré Wyatt Earp, par exemple. Donc il y a cette particularité-là. Mais alors, en quoi c'est l'apogée, le XXIe siècle, du genre du western ?
Alors moi j'aime bien prendre un peu à rebrousse-poil le lecteur. Effectivement, si on écrit un essai, un livre, c'est pas pour forcément synthétiser tout ce qui est déjà su, surtout que l'information sur le western, elle est facilement accessible à tout le monde. Il y a des forums, enfin des fiches, des encyclopédies. J'étais lassé tout simplement parce que effectivement le genre du western, c'est un genre dont on adore annoncer la mort depuis au moins 60 ans, puisqu'on est quand même voire plus, puisqu'on est en 2026. Il y a déjà des personnes qui ont dit qu'il est mort avec Sam Peckinpah. Voilà, c'est plus du western. Il est mort avec, je sais pas, Cimino, parce qu'il a essayé de ressusciter les westerns dans les années 80, mais ça n'a pas marché du tout. Ensuite, on a dit merci à Clint Eastwood parce qu'il a réussi à réaliser Impitoyable au début des années 90. Et on a dit, c'est formidable. Ben, par contre, c'est un chant du cygne parce que le western, il était de toute façon mort. Et il est un peu sorti du placard, mais pour ainsi dire, ça ne change rien. On va dire que Clint Eastwood a tourné le, le dernier grand western avec Impitoyable, alors c'est totalement faux, hein. Enfin à mon avis. Clint Eastwood, qui est d'ailleurs, qui va peut-être bientôt aller sur ses 100 ans, on le lui souhaite ardemment, n'a effectivement, alors même qu'il a continué à tourner plein de films après Impitoyable, plus jamais retourné de western, mais pas parce qu'il considérait que c'était un genre fini, tout simplement parce qu'il considérait qu'il y avait plus d'histoires intéressantes qui avaient été mises sur sa table. Donc, moi, tout simplement, j'ai fait quoi? J'ai regardé les westerns qui ont été réalisés les 30 dernières années. Et j'ai posé un constat, c'est que ces films-là, alors il y en a quelques-uns, alors ils ne sont pas non plus pléthoriques, mais ils arrivent quand même de manière assez régulière et ils forment ensemble un corpus très cohérent et assez monumental parce que c'est des films d'une dimension, enfin d'une ambition de propos assez colossale. Par exemple, il y a le thème de Jesse James qui a été remis sur le métier au tout début du 21e siècle dans le superbe film avec Brad Pitt qui joue Jesse James. Ces films-là, mis bout à bout, on se rend compte qu'il a fallu des décennies pour digérer tout ce que le western classique et baroque avaient à dire, pour en faire une synthèse que j'estime magistrale et qui a été même le genre au début du 21e siècle, c'est mon propos, il a même été porté à un niveau qui n'avait jamais été atteint, puisque le western se réconcilie véritablement avec lui-même depuis effectivement un certain nombre de films testamentaires.
Vous pensez à quel film,
et
par exemple?
C'est ça qui m'a intéressé.
Peut-être vous nous sortir quelques exemples de films pour vous qui offrent cette synthèse parfaite et cette réconciliation avec. En effet, on a vu une grande évolution du genre. Vous parlez de Peckinpah, on a eu Arthur Penn, il y a eu le western ensuite. On a eu le western naturaliste, le western qui racontait que l'Amérique était née dans le sang. Il y a une grande évolution du genre. Et puis, le Impitoyable d'Eastwood, le crépusculaire. Mais en quoi donnez-nous quelques exemples de films de western du 21e siècle qui, pour vous, reflètent cette synthèse parfaite.
Alors, pour le comprendre, déjà, on peut aller voir un film qui n'est pas forcément un western, mais qui en parle énormément. Donc, ça, ce serait une explication, déjà, un préalable, qui est Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film, donc, évidemment, de Quentin Tarantino, qui est lui-même auteur de deux très bons westerns, pas très vieux, hein, donc 21e siècle, Django et puis Les Huit Salopards, qui sont des films un peu complémentaires, mais qui ne disent pas tout. Bon, ceci dit, Les Huit Salopards, à mon sens, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc si on veut chercher un très grand western déjà au 21e siècle, on peut aller vers ce film-là, mais il ne s'agit pas d'un film de synthèse, puisque c'est un film qui est ultra pessimiste. Et là, pour le coup, d'ailleurs, c'est une apocalypse.
Alors, ce qui est intéressant, c'est vous dites que Tarantino, Les Huit Salopards, est le film parfait, et c'est un huis clos, oui. Ce qui peut paraître antinomique avec le western, qui est justement la conquête de l'Ouest, les grands espaces, les chevauchées.
Oui, mais ça, Howard Hawks avait déjà démenti en tournant Rio Bravo, qui est un film qui se passe dans un saloon et une prison, et c'était pas le seul. C'est vrai, ou bien Ford, qui effectivement, il a fait La Prisonnière du désert, mais il a aussi fait L'homme qui tue à Liberty Valence, qui n'est pas du tout un film des grands espaces. Et pourtant, on est en plein cœur du sujet. Bah, tout simplement, c'est que... pour autant, il y a de très grands espaces dans Les Huit Salopards. On les voit quand même, il y a des scènes de traversée de paysages hivernaux à la diligence qui sont assez saisissantes. Et on comprend, mais c'est un paysage infernal en ce sens qu'il va engloutir et dévorer tous les gens qui le traversent. Et ça, c'est un thème très pessimiste qui n'appartient pas, à mon sens, justement, à un regard un peu plus apaisé. Qui est susceptible à présent d'être porté sur le western le plus contemporain. Alors, pour vous donner un exemple de titre très précis, Je l'aime bien celui-là parce que on n'y pense pas forcément. C'est un remake d'ailleurs. Sofia Coppola a remis sur le métier le film Les Proies. Donc, on revient un peu à Clint Eastwood puisqu'il joue le rôle principal de ce film. Les Proies, c'était un film très très noir. Voilà le baroque, la noirceur. Ça se finit d'ailleurs très très mal hein, puisque ça se finit. Il y a le thème du cannibalisme qui s'invite dans ce film un peu étrange. Et Sofia Coppola, quand elle a tourné la même histoire, elle le fait dans une esthétique beaucoup plus apaisée, avec un grand raffinement, une plasticité. Mais c'est fou. Moi, j'ai envie presque de parler de rococo, de légèreté gracieuse. Elle montre l'horreur avec un recul. Et pour moi, c'est ce que j'ai tenté de démontrer dans ce livre-là. C'est ça, c'est cette capacité de se confronter au chaos sans en être définitivement détruit. Ce qui était l'impasse du western baroque, puisque le western, après le western classique, ou bien parallèlement au western classique, le western baroque, il a fait quoi? Il a montré des choses de plus en plus terrifiantes jusqu'à un point dont on pensait qu'il ne pouvait plus évoluer. Je pense notamment, sans parler de Peckinpah, qui est un peu un nom qui fâche, puisqu'il avait une esthétique un peu sale, qui ne peut ne pas plaire aux gens, aux amateurs de quelque chose d'un peu plus formel. L'homme de l'Ouest, Anthony Mann, c'est le sommet du baroque. Voilà. C'est génial, c'est sublime. C'est très Hitchcockien, d'ailleurs, pour revenir à Hitchcock. Mais c'est pas l'aboutissement du western. L'idée, c'était de réussir à réconcilier ce classicisme et ce baroque. Et ça, le XXIe siècle a réussi à le faire, à travers les quelques exemples que j'ai montrés dans le livre.
Alors, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que le western est fondamentalement américain, puisque c'est le mythe fondateur des États-Unis. Et pourtant, c'est un genre qui a été prisé par beaucoup de réalisateurs américains, très variés, mais aussi des étrangers. On peut citer, il y a Fritz Lang qui est passé par là, il y a Otto Preminger. On peut citer également Jacques Audiard, qui a fait un western au XXIe siècle, les Frères Sisters. Il y a les Coréens qui s'y ont mis en pompant un peu le western de... Alors, spaghetti, je sais pas si c'est spaghetti avec un remake du Bon, la Brute et le Truand. Alors, ça, le titre, c'est pas comme ça. Je crois qu'il doit y avoir
un quatrième, je crois.
Ou un truc comme ça. Mais voilà. Donc, comment expliquer que ce genre très américain fascine autant et voit des réalisateurs d'horizons très différents et de nationalités différentes s'y essayer?
Alors déjà, les États-Unis. Enfin, le cinéma hollywoodien, c'est un cinéma qui n'est pas très américain à la base, puisque tous ces gens-là sont souvent pas nés effectivement sur le sol des États-Unis. Il n'y a pas que au Preminger qui a fait avec La Rivière sans retour effectivement un des plus hauts westerns. Hitchcock était britannique, pourtant il a fait des films ultra hollywoodiens. C'est plus une mythologie qui est à mon avis la mythologie du paradis perdu, qui a autant inspiré le western. Ce qu'on a voulu récupérer avec ce genre, une image très très tendre, très idéaliste, d'un nouveau monde, d'un recommencement possible ailleurs, parce qu'effectivement, on a tout saccagé de la vieille Europe. C'est ce que raconte évidemment Terrence Malick dans Le Nouveau Monde, qui est après-western. On n'est pas encore dans le western, puisque ce n'est pas la conquête de l'Ouest du tout, c'est la découverte du pays. Mais on est déjà dans ce désir de montrer que tout ce qu'on a saccagé, on pouvait le reconstruire. Mais ça, c'est un fantasme. Alors du coup, ça n'a pas marché très bien. Malheureusement, c'est terrible. Mais d'ailleurs, Le Nouveau Monde montre très bien pourquoi ça n'a pas marché. Mais il montre aussi qu'en dépit de cet échec, on comprend que peut-être que l'échec est consubstantiel finalement à l'évolution, à la trajectoire de l'histoire de l'humanité, qu'il faut s'en accommoder et ne pas faire un motif d'effondrement complet et réussir à trouver l'espoir au plus fort du chaos. Donc ça, effectivement, puisqu'on parle de Malick, c'est quelque chose qu'il a fait toute sa carrière durant. Il n'a fait que ça, c'est la seule histoire qu'il a racontée. Retrouver l'harmonie au sein du chaos, mais c'est aussi ce qu'a essayé de refaire encore une fois le western contemporain, en remettant sur le métier les classiques d'antan et en trouvant, matière à continuer à s'émerveiller à travers ces histoires de Grand Ouest américain, alors même que ça a complètement dégénéré à chaque fois. Et le fait qu'Audiard en ait fait un, je consacre d'ailleurs un petit chapitre dans le livre, c'est assez intéressant, puisqu'Audiard, il a dit des choses qui sont, à mon avis, pas très pertinentes, qui m'avaient interpellé, parce que c'est un sujet que je connais bien. Il avait dit qu'il avait fait ce western pas du tout pour montrer des paysages, voilà, le cliché du western des américains des grands espaces, parce qu'il n'était pas jardinier. J'ai trouvé ça complètement à côté de la plaque. Pourtant, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que Les Frères Sisters, c'est un film mais absolument superbe. Il est d'une beauté plastique de tous les instants. Et ce film, il raconte précisément voilà, l'ivresse de l'or. Ça se finit très très mal. Il y a des morts, il y a des gens qui sont amputés. Mais en même temps, c'est drôle. C'est un film un peu une comédie horrifique. Et en ce sens, il ressemble beaucoup au film de Sofia Coppola dont je parlais avant, Les Proies. Il réinvente le récit mythique américain de manière très apaisée, mettant de l'humour, en mettant des choses de la préciosité. On voit, on sent qu'Audiard effectivement n'est pas intéressé par les grands mythes américains, et pourtant c'est en faisant ce pas de côté qu'il en parle le mieux. Et les gens qui ont vu ce film assez particulier vont s'en prendre certaines plus.
Alors il nous reste une minute. Vous avez écrit donc sur Terrence Malick, vous avez écrit sur les frères Cohen, vous avez écrit sur Tarantino, vous avez écrit sur le western, vous avez écrit sur Hitchcock. Vous avez écrit sur La Nuit du Chasseur, sublime film. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui dicte vos choix ?
Oui, le fil conducteur, il est clair. Hein. C'est ce que j'appelle le réalisme magique, qui est porté par un peu un film somme, un film thèse, qui est Peter Ibbetson, d'Henry Hathaway. Film ultra identifié comme un classique du cinéma hollywoodien. Pas forcément non plus, il a marché très fort en son temps, mais pour ainsi dire, il a quand même été oublié. Et ce film, si on le détricote et si on dévie la bobine, on se rend compte qu'il explique tous les autres. L'optimisme, le pessimisme, le baroque, le classique, avec le modèle que j'avais identifié dans ce film, on peut tout expliquer. On peut expliquer tous les films dont vous avez parlé, sur lesquels j'ai pu écrire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que quand je me dis j'ai tout dit, je vais arrêter, je trouve un autre motif pour continuer à poursuivre ma démonstration encore plus loin. Et c'est ça qui anime ma passion, ma foi. Hein.
Merci beaucoup Damien Ziegler. Donc je rappelle votre dernier livre, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, L'Apocalypse n'est pas pour demain, je rappelle aux éditions Leitmotiv, je rappelle également que vous avez écrit donc le western au XXIe siècle, l'apogée d'un genre, et que vous avez écrit de nombreux autres ouvrages sur des cinéastes ou sur des films, évidemment, que nous vous encourageons à vous procurer. Vous allez sur le site des excellentes éditions Leitmotiv, et puis vous ferez votre petit marché. Enfin, je rappelle également le dernier livre de Christophe Dickès, Le christianisme, une religion d'historien. Chers amis, nous nous retrouvons mercredi prochain. Demain, c'est Marc Hainaut qui sera au micro de Valeurs Actuelles. Et vendredi, ce sera Marc Baudrier, pardon, de Boulevard Voltaire. Je vous souhaite une bonne soirée et allez la France.
Ça suffit maintenant.